Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invitée de Pluriel est Farida Amrani, candidate à la France insoumise lors de l'élection législative partielle du 18 et 25 novembre dans l'Essonne. Bonsoir.
Bonsoir.
Farida Amrani, cette élection partielle fait suite à la démission de Manuel Valls, qui était le député sortant que vous aviez déjà affronté en juin 2017. Il avait été élu avec une poignée de voix d'avance seulement. Radio Orient est très écouté dans l'Essonne et certains ignorent peut-être encore qu'ils vont pouvoir voter dans 3 semaines. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler les villes qui figurent dans votre circonscription, Farida Amrani ?
Oui, bien sûr. Je vous remercie déjà de l'accueil et de m'avoir invité ce soir. Donc en effet, la première circonscription de l'Essonne, les villes qui la composent sont Évry, Corbeil, Bondoufle, Courcouronnes, Villabé, Lys, donc 6 villes.
Donc c'est une grande circonscription.
C'est une grande circonscription en effet, et 2 grosses villes, Corbeil et Évry, qui font plus de 50 000 habitants.
Alors nous donnerons bien sûr la parole à vos principaux adversaires dans les jours qui viennent, s'ils acceptent de venir. De votre côté, comment se passe la campagne électorale ?
Écoutez, franchement plutôt bien, on est satisfaits en tout cas puisque... nous, on n'a jamais vraiment quitté le terrain.
Vous avez le sourire, en tout cas,
oui,
ce soir.
Oui, c'est gentil. Écoutez, moi, je l'ai toujours parce que, en fait, déjà, c'est dans ma nature d'être souriante et j'estime qu'il faut l'être, puisque le monde et ce qui nous entoure est tellement triste qu'il faut quand même donner un peu d'espoir et un sourire, ça ne coûte rien encore.
Et donc, ça se passe bien de votre côté parce que vous étiez toujours présente après juin 2017.
Tout à fait. J'habite, moi, la circonscription, contrairement à certains de mes concurrents. Moi, j'y habite avec mes parents. Mes parents habitent aussi la circonscription, mes frères et sœurs. Je m'y suis mariée, j'ai élevé mes 3 filles et j'y élève encore, on y habite encore. Donc du coup, oui, on me voit toujours au quotidien. Je vais faire mes courses, j'emmène mes filles à l'école, je suis parent d'élèves toujours. Donc en effet, c'est une circonscription que j'aime puisque j'y habite.
Alors comment ça se passe une campagne électorale, partielle il faut vite se préparer. C'est quand même, ça s'est fait de manière accélérée.
En effet, une partielle, c'est vrai que la difficulté qu'on va avoir, c'est que c'est une partielle et qu'une partielle, elle n'est pas, au point de vue national, elle n'est pas reconnue. Je veux dire, on n'a pas un focus, en tout cas, sur notre circonscription comme on peut l'avoir au niveau national parce que toutes les élections se font en même temps. Donc ça, c'est notre crainte. Notre crainte, c'est l'abstention. On ne va pas le nier. Et donc, c'est pour ça que nous, on est tous les jours, depuis 3 semaines pratiquement, sur le terrain, pour informer qu'il y a une élection partielle. On connaît la date. Aujourd'hui, c'est le 18 novembre, le premier tour, et le 25 novembre, le second tour. Donc, en effet, on fait du porte-à-porte, on communique beaucoup pour informer justement de cette nouvelle, parce que beaucoup de nos électeurs nous disent que c'est une grande nouvelle et une bonne nouvelle.
Une grande nouvelle et une bonne nouvelle, oui. Pourquoi ?
Une grande nouvelle et une bonne nouvelle parce qu'ils ont un peu suivi, ils ont suivi un petit peu. Effectivement, pour eux, déjà, ils ont été dupés parce que l'ex-premier ministre est parti à Barcelone après avoir fait campagne en leur disant « je serai toujours proche de vous », c'était son slogan. Donc toujours avec vous. Et ils se sont sentis trahis, tout simplement trahis, parce qu'il s'est encore servi de notre territoire comme tremplin. Là, c'est un tremplin pour partir dans son pays natal, a priori, et faire campagne et créer une nouvelle carrière, en tout cas, politique.
Alors, quand on fait du porte-à-porte, on est accueilli comment ? Vous allez là-bas toute la journée, plutôt le matin, plutôt le soir ? Nos auditeurs peuvent s'attendre à vous voir dans les jours qui viennent ?
Tout à fait. On fait beaucoup de porte-à-porte le soir parce que les gens travaillent chez nous la journée, donc ils sont là le soir. Donc effectivement, à partir de 18h jusqu'à 20h, on fait du porte-à-porte bien ciblé. Le samedi, on en a fait samedi dernier. Et ce samedi et dimanche... qui vont demain et après-demain, on fera énormément de porte-à-porte sur les 2 villes principales, c'est-à-dire Corbeil et Évry.
Et les marchés, évidemment.
Les marchés, oui, ça c'est du quotidien, les boulangeries, voilà, ça c'est du quotidien.
Farida Amrani, quels sont les enjeux de cette élection pour les habitants de la circonscription localement ? De quelle manière vous défendrez leurs intérêts? On va parler après des questions nationales, mais les habitants, ils s'intéressent aussi à leur situation localement.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous pose comme question à chaque fois qu'on les rencontre. On a été abandonnés, on ne s'est pas occupé de notre circonscription, on a des problématiques telles que le transport, puisqu'on a une ligne qui s'appelle le RERD qui est catastrophique. C'est une horreur quand moi...
Concrètement, racontez-nous ce qui se passe sur le RERD.
Les trains supprimés, c'est du quotidien, en retard. Vous attendez votre train, vous dites « bon, bah, j'ai 45 minutes pour aller à une réunion, pour aller à mon travail et surtout pour revenir à mon domicile pour récupérer mes enfants parce que les centres ferment à 18h45, les centres de loisirs. » Donc tout ça, c'est le quotidien de tous nos habitants, ceux qui prennent le RER, parce qu'ils travaillent sur Paris. Ils n'ont pas la chance de travailler à côté de chez eux. Hein. Donc eux, ils sont obligés de marcher et prendre le train, prendre les transports en commun, le bus, etc. Donc, ils n'ont pas le choix, puisqu'ils doivent nourrir leur famille. Et c'est une catastrophe, ce train, cette ligne. Un de mes concurrents qui est là depuis certaines années, qui était très proche de l'ex-premier ministre, d'ailleurs, c'est celui qui
donc
va...
Francis Chouard, en effet,
le maire actuel d'Evry, qui est soutenu, donc qui part avec l'étiquette macroniste, hein, faut pas l'oublier, qui, lui, ne s'est jamais positionné sur le RERD, contrairement à ce qu'il dit, puisque nous, on l'a mis au cœur de notre campagne comme un enjeu. C'est aujourd'hui qu'il pense qu'effectivement, il faut travailler sur cette problématique.
Donc, vous serez le relais des habitants de ce territoire auprès des pouvoirs publics
Bien sûr.
La question des transports.
Oui.
Vous pourrez peser, le groupe La France Insoumise n'est pas majoritaire.
Elle n'est pas majoritaire, mais dans l'Essonne, en tout cas le député de l'Essonne, a un poids, en effet. Moi, je trouve lamentable aujourd'hui que... Au 1er janvier pratiquement 2019, nos concitoyens de la première circonscription, certains soient obligés. Vous imaginez aujourd'hui, ils ont ligne directe jusqu'à Paris. Ils seront obligés de descendre à Juvisy pour prendre un autre train, donc une rupture de charge. Au lieu d'améliorer leurs conditions de transport, on va les dégrader et fortement.
Et donc avec un impact
bien entendu,
de durée, de fatigue.
Donc au lieu de mettre 1h30, ils vont mettre 2 heures de transport, 2 heures aller, 2 heures retour. Vous imaginez 4 heures, pratiquement une demi-journée de travail.
Malgré ce que vous nous dites, Farida Amrani, est-ce que c'est une circonscription où il est agréable d'habiter, de vivre?
Il est agréable d'y habiter, d'y vivre, bien entendu. Par contre, on est obligé d'aller travailler. Et c'est ça la problématique. On est obligé d'aller travailler, donc prendre les transports. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, parce que c'est un problème fondamental pour les habitants, parce que pendant des années, on n'a rien fait et ça se dégrade fortement. C'est-à-dire qu'on n'a pas investi 1 euro sur cette ligne. C'est inadmissible.
Est-ce que la thématique du logement arrive en deuxième, troisième position après le transport?
Alors, il y a aussi la santé qui est très importante pour nous. La santé.
Les déserts médicaux?
Tout à fait, parce qu'on a un hôpital qui s'appelle l'hôpital sud-francilien. On a gagné la bataille puisqu'il est sorti du PPP, partenariat public-privé. On s'est battu pour qu'il en sorte, on en est content, et il en est sorti. Aujourd'hui, la problématique, c'est que Francis Choix, qui est responsable, en tout cas qui préside le comité de surveillance de cet hôpital, a validé plusieurs suppressions de postes. D'accord ? Donc ça a validé plusieurs suppressions de postes et des fermetures de lits. Sachant que sur notre circonscription et aux alentours, d'autres hôpitaux vont fermer. Donc vous imaginez l'impact que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'on va avoir un afflux de patients. En plus, aujourd'hui, il faut savoir que dans cet hôpital, il y a entre 7 et 8 heures d'attente aux urgences.
7 et 8 heures d'attente?
Oui. Aux urgences, monsieur.
On imagine avec des enfants.
Tout à fait, avec un parking payant. C'est-à-dire quand vous venez, il n'y a aucun moyen de transport pour aller, à part une ligne de bus dans cet hôpital. Et en plus, on vous fait payer. Donc vous imaginez 7 heures d'attente.
Votre rôle, ce sera d'être une lanceuse d'alerte, puisque effectivement, cet hôpital, on n'en parle pas.
Voilà.
J'imagine dans le Parisien,
oui,
localement.
Mais très peu, très peu. Et la souffrance aussi du personnel médical. Ça, il faut la prendre en compte. Je suis syndicaliste, donc c'est quelque chose qui me touche de plein fouet et je les comprends. Donc du coup, oui, en effet, c'est des choses que nous, on va défendre, que je vais défendre en tout cas. Et je vais peser de tout mon poids pour améliorer en tout cas, même si c'est minime, mais améliorer les conditions.
Farida Amrani, vous êtes donc syndicaliste. C'est la première fois que je vous reçois dans cette émission. C'est un peu la tradition de l'émission, quand on a un ou une invitée qui vient pour la première fois, c'est de se présenter un peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre parcours? On a compris que vous habitez dans la circonscription depuis très longtemps.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dire
Alors,
sur votre
écoutez,
parcours
mon parcours, il est simple. Il pourrait être le parcours de n'importe quelle personne, n'importe quel Français et Française. Moi, je suis née, en fait, mon père est venu en France dans les années 70. Pour dans le cadre de la construction de la France. Et donc, je suis arrivée en 80, dans les années 80, dans un petit village dans le Loiret, à Briard. On a grandi, mes frères et sœurs sont nés là-bas aussi. Donc, du coup, voilà, quand on est arrivé, moi, mon père n'a jamais cru, en fait, ne pensait jamais que 40 ans plus tard, sa fille allait candidater, en tout cas, pour devenir députée. Donc...
Lui, c'est une fierté.
Oui, c'est une fierté, bien entendu, parce que je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Mon père est maçon, je dirais, dans le bâtiment. Ma mère est femme au foyer, donc elle nous a élevés. Elle nous a, je pense, très bien élevés, puisque aujourd'hui, je pense qu'on a toutes et tous, en tout cas, une situation, donc on peut en être fiers. Et ce que je veux justement, c'est continuer cette fierté, et parce que transmettre, en tout cas, à mes filles, parce que j'ai 3 filles, je suis mariée, j'ai 3 filles, transmettre à mes filles justement. Cette fierté. En fait, le fait qu'aujourd'hui, en France, c'est notre pays, on est, bien entendu, on est français, et la fierté d'être double culture, parce qu'on a aussi la double culture, je suis née au Maroc, donc j'ai encore cette double culture-là, qui est une richesse.
Nos auditeurs vont se demander dans quelle région du Maroc, hein, puisque vous donnez des précisions.
Alors, je suis née dans un petit village, en fait, pas loin de. Entre Oujda et Berkane. Voilà.
À la frontière algérienne,
exactement.
Et alors, vous êtes syndicaliste dans. Oui. Si je peux être indiscret, dans quel est votre métier?
Alors, je suis fonctionnaire territoriale. Donc, je travaille dans une agglomération dans le 91, et je suis syndicaliste. J'ai monté le syndicat en 2003. Donc, je suis secrétaire de mon syndicat. Je siège en CHSCT. Donc, les conditions de travail, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je suis membre du CTP. Et comment je suis arrivée à la politique? Parce que je suis mes 3 filles. Je suis parent d'élèves engagée. Je suis mes 3 filles tout au long de leur scolarité. Je les suis toujours. Et en 2013, de mémoire, en 2013, il y a eu la réforme des rythmes scolaires. Vous en souvenez? Cette fameuse réforme
Vincent
des rythmes
Payon,
scolaires.
Ministre
tout
de l'Éducation nationale.
Et il a voulu prendre notre ville, en tout cas Évry, comme laboratoire. C'est-à-dire, on va dire, on va faire un essai sur cette ville, c'est bien. On va essayer, voir comment ça se passe. Et nous, on a dit non, si vous voulez essayer, faut peut-être qu'on en discute ensemble avec les profs, parce que c'est important aussi que l'Éducation nationale ait un rôle, et joue son rôle là-dedans. Et donc, du coup, le maire de la ville avait décidé de faire tout seul dans son coin et de nous informer après. Donc, la concertation pour lui, c'est nous informer après, une fois que tout a été fait. Et on s'est retrouvés environ plus de 100 parents d'élèves dans une salle au conseil municipal. Et quand j'ai pris la parole... Quand j'ai pris la parole pour lui expliquer que c'était pas bien ce qu'il faisait, que c'était pas, qu'on n'était pas d'accord, parce que nous, c'est nos enfants, c'est l'avenir de nos enfants qu'on joue aujourd'hui, et qu'on ne pouvait pas faire de l'argent sur le dos de nos enfants, il m'a tenu cette phrase qui résonne encore d'ailleurs, qui me dit « Madame, si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à monter une liste aux prochaines municipales. »
Alors c'est finalement voilà. Votre adversaire qui
m'a donné
envie de faire de la politique.
Exactement. Donc du coup, effectivement...
Il en parle du maire actuel?
Du maire actuel, oui. Oui, en effet. Et donc du coup...
Donc il vous connaît bien?
Il me connaît très bien même, parce que je siège aujourd'hui dans l'opposition face à lui. Nous avons 4 élus.
Et quel est le sens de cette élection? Vous avez choisi la France Insoumise, un parti politique qui n'existait pas quand vous avez commencé à vous engager.
En fait, moi, en 2014, quand on a présenté notre liste, elle a été présentée sous l'étiquette Front de Gauche, parce qu'il y avait des citoyens. Et moi, c'est le citoyen qui m'intéresse, en fait. Au-delà des partis, etc., c'est l'engagement citoyen. Et dans notre liste, il y avait plus de citoyens que de personnes politiques, dans quartier politique. Donc c'est ça. Et en fait, pourquoi? Parce que entre les deux tours, parce que mon adversaire était persuadé qu'on ferait 2% ou 3%, et entre les deux tours, puisqu'on a fait presque 16%, et entre les deux tours, une personnalité est venue me donner un peu de force.
Jean-Luc
Mélenchon, exactement, qui ne me connaissait pas, on ne se connaissait pas du tout, et il nous a fait confiance, et il est venu, il a dit « bon, je vais voir ce qui se passe là-bas, c'est un département qu'il connaît très bien », et donc il est venu. Donc voilà, j'estime que je dois lui rendre, en tout cas, il a fait ce grand pas pour moi, il est venu, il ne nous connaissait pas, et il nous a soutenus, contrairement à d'autres. Donc, c'est des choses que je n'oublie pas.
Vous êtes bien accueilli par la France Insoumise depuis que vous êtes, dans cette famille.
Oui, très bien. Franchement, très bien. Voilà, tout le monde, bon, j'ai un caractère, bien entendu. Heureusement, je ne suis pas la seule.
Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai un caractère ?
Je ne suis pas la seule. Bah, ça veut dire que je n'ai pas ma langue dans ma poche.
C'est un atout pour la politique ou
sûr.
Ça peut être de temps en temps un inconvénient ?
Bah, écoutez, moi, je prends comme un atout parce que je pense qu'on doit être honnête avec ceux qui votent, avec les électeurs. L'honnêteté, aujourd'hui, elle se perd dans ce monde politique. Et ça, il faut la rétablir, c'est important.
Les responsables politiques ont mauvaise presse auprès des Français, comme les journalistes d'ailleurs. Il faut réhabiliter la politique.
Ben, en fait, il faut refaire de la politique autrement. Parce qu'aujourd'hui, la politique, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit et c'est ce que je ne veux pas faire, en fait. Moi, je veux faire de la politique autrement, justement changer les choses en disant la politique, on la fait ensemble, pour nous, mais pas que pour moi ou pour un parti. C'est vous qui êtes les premiers impactés, en tout cas par la politique, parce qu'on en fait tous, quel que soit le milieu où on est, on fait de la politique tous les jours.
Farida Amrani, vous nous avez dit que les raisons de votre engagement, c'est le manque de concertation.
Oui.
Quel député serez-vous si vous êtes élu ? Est-ce que vous associerez les électeurs à vos prises de décision ?
En effet, la première chose déjà, c'est qu'on va établir une permanence. Chose qu'on n'a pas vue depuis des années sur notre circonscription. Donc, on mettra une permanence au cœur de la ville d'Évry et on pourra accueillir tous les administrés. On récupérera en fait toutes leurs questions, toutes leurs suggestions. Et bien entendu, moi, je reviendrai parce que je partirai pas. Je resterai et je viendrai à leur rencontre pour l'exposer et pour attendre en fait là aussi leur retour à eux parce que j'ai besoin de les entendre.
L'un des rôles du député que l'on ignore parfois, c'est que vous répondez parfois aussi à la détresse des gens.
Oui.
Des gens qui sont menacés d'expulsion, à la fois de leur logement, parfois d'expulsion du territoire français, des problèmes de carte de séjour.
Oui.
Ça fait partie aussi des missions que vous voulez assigner.
Oui, parce que en tant que syndicaliste, déjà, je fais déjà tout ça. J'aide, en fait, on essaie de le faire au mieux. Et bien entendu, pour nous, ça sera un atout supplémentaire, puisque vous imaginez ce qu'on peut faire au niveau syndical et avec nos petits moyens, quand on est député, ce qu'on peut faire. On a plus de pouvoir et on peut faire plein de choses plus vite et pour plus de personnes. Et ça, c'est important.
Alors, si vous êtes élu, vous allez être membre d'un groupe qui existe déjà depuis plus d'un an et demi. Quel regard vous portez sur ce groupe, la France Insoumise, à l'Assemblée ?
C'est le groupe, c'est le premier groupe d'opposition pour moi, à la politique d'Emmanuel Macron.
Mais pourtant, ils ne sont pas les plus nombreux. Hein. Les socialistes sont plus nombreux.
Oui, mais ils travaillent, justement. Ils travaillent beaucoup.
Ils travaillent beaucoup ou bien ils se font plus entendre médiatiquement ?
Ils travaillent beaucoup parce que pour se faire entendre médiatiquement, il faut travailler, il faut avoir les éléments et il faut faire des propositions. On est un groupe, en fait, la France Insoumise est un groupe où il y a énormément de propositions. Énormément. Donc on n'est pas que dans la contestation, on est aussi dans la proposition.
Beaucoup de propositions, mais La République En Marche
c'est leur politique,
ne vous écoute pas.
Tout à fait. Mais c'est malheureux.
À quoi servez-vous ?
On continuera. Ils ne nous écoutent pas aujourd'hui, mais ils reprennent nos propositions. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils reprennent de toute façon les choses. Quand la population se mobilise, ils se rendent compte qu'effectivement, on a raison et qu'il faut reprendre. Ils ne reprennent pas tel quel, mais ils reprennent certaines propositions.
C'est important aussi de s'appuyer sur l'opinion publique.
Il faut. Bien sûr, on fait de la politique pour les administrer. Donc oui, il faut. C'est important que justement la population donne son avis à chaque fois.
Vous êtes prête à être députée ? Vous sentez que vous allez travailler très vite ? Vous allez être dans le bain très rapidement si vous êtes élue ?
Vu le groupe, oui, je pense que je serai très vite dans le bain. Et on travaille déjà, je vous dis, le travail ne me fait vraiment pas peur, c'est des choses qu'on fait au quotidien. Donc oui, on continuera et on travaillera. Déjà, on travaille avec le groupe, moi, pour justement, dans le cadre de mes missions syndicales, on essaye de mettre en chose, notamment sur le harcèlement au travail.
L'invité de Pluriel est Farida Amrani, candidate La France Insoumise lors de l'élection législative partielle du 18 et 25 novembre dans la première circonscription de l'Essonne. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de Farida Amrani, candidate La France Insoumise lors de l'élection législative partielle du 18 et 25 novembre dans l'Essonne. Première circonscription de l'Essonne, celle qui a été laissée vacante par Manuel Valls. Quelle trace a laissé le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, dans cette circonscription ?
Alors malheureusement, il a laissé la trace de division de la population. C'est-à-dire que la population s'est sentie, en tout cas, divisée, parce que certains étaient écoutés et pas d'autres. D'autres ont été vraiment oubliés. Donc, moi, j'étais étonnée par la haine, en fait, que certains habitants avaient envers ce monsieur. J'étais vraiment étonnée et triste à la fois.
Vous parlez de division. Manuel Valls était perçu par certains comme un défenseur de la laïcité, un ennemi de l'islam politique. D'autres l'ont vu au contraire comme un diviseur, quelqu'un qui pratiquait l'amalgame. Sur cette question, vous n'avez pas la même conception de la laïcité que Manuel Valls?
Écoutez, moi, la laïcité, elle est claire, c'est le socle de la République. Donc il faut la respecter. Bien entendu, la laïcité, moi, c'est quelque chose que je respecte et où je me dis il faut qu'elle soit partout, à tous les niveaux. C'est important justement pour le vivre ensemble. Cette laïcité, elle est importante. Maintenant, quand on dit qu'on est pour la déchéance de la double nationalité, ça me pose problème, bien entendu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait ce monsieur ? Il est parti faire de la politique dans un autre pays. Lui qui disait que la France, il fallait la respecter, la République aussi. Donc déjà, il va faire de la politique dans un pays qui c'est plutôt une monarchie, on est d'accord, d'être une république. Et quand, souvenez-vous des propos qu'il tenait à l'époque, on avait l'impression que c'était le plus français des Français. Et c'est ça qui me gêne, c'est qu'il n'a jamais voulu mettre en avant les doubles cultures, en considérant que c'est une richesse. Pour lui, ce n'était pas une richesse et qu'il fallait s'en débarrasser complètement. Et là, il joue sur les deux tableaux, c'est ça qui m'ennuie. C'est-à-dire que faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
Les députés de la France Insoumise avaient levé des pancartes « Bon débarras » lors du dernier passage de Manuel Valls à l'Assemblée. Il était venu faire ses adieux. Est-ce que c'est très républicain de dire cela à un parlementaire qui s'en va ?
Écoutez, je peux me mettre à leur place parce qu'ils ont quand même bien insulté. Faut pas l'oublier. Donc, ils ont été insultés. Donc, je peux comprendre. J'aurais peut-être pas fait comme ça, mais je peux comprendre.
Dans une élection partielle, l'un des enjeux, c'est la participation des électeurs, on l'a dit. Qu'est-ce que vous dites aux habitants de la circonscription qui se disent, bon, c'est pas très important, un député La France Insoumise de plus ou de moins, un député La République En Marche de plus ou de moins, ça ne va rien changer?
Localement, ça peut changer, c'est ça. Eux, les habitants, ce qu'ils pensent, c'est qu'il faut que le député serve localement. Et c'est ça, en fait. Et ils ont vraiment raison, c'est ça l'atout d'un député. Faire la jonction entre le national et le local. Chose qu'on n'avait pas avant. Qu'on n'avait plus, en tout cas, depuis un petit moment. Donc oui, nous, on leur rappelle cette importance. Ils le comprennent. Certains n'ont pas été votés la dernière fois et ils le regrettent. Et d'autres m'ont dit, on a voté pour l'ex-premier ministre, on le regrette aussi. Et le 18 novembre, vous aurez, en tout cas, nos voix dès le premier tour.
Une élection partielle, c'est aussi un test pour un gouvernement, quel qu'il soit. Vous appelez les électeurs à adresser un message à Emmanuel Macron à l'occasion aussi de cette législative?
Écoutez, on vit de plein fouet, en tout cas sur cette circo, on vit de plein fouet la politique de Emmanuel Macron. Bien entendu, quand on rencontre les gens, notamment nos aînés, nos retraités, qui nous disent « c'est plus possible ». On a moins de pouvoir d'achat, comment on va faire ? J'ai rencontré une dame sur le marché jeudi après-midi, parce qu'on a le marché à Courcouronnes, qui me disait « Mais madame, vous imaginez, j'ai travaillé toute ma vie, durement travaillé, j'ai une petite retraite, donc on m'a, au lieu de l'augmenter, on me la diminue, et en plus, j'aurais jamais cru aller demander des tickets, en fait, des bons au Resto du Cœur. » Elle me dit « Vous imaginez où est-ce que j'en suis arrivée ?» Et ça, c'est quelque chose pour moi d'insupportable à entendre.
C'est insupportable à entendre et pourtant Jean-Luc Mélenchon a tenté de mobiliser les Français, il a organisé des manifestations. Il y a eu peu de participation. On a l'impression que les gens sont résignés, Farida Amrani.
C'est pas qu'ils sont résignés tant que ça ne les touche pas. Ils comprennent pas, ils disent oui, bah, ça peut-être ça arrivera, mais
le
peut-être
code
pas forcément.
Le travail, et bah, pourtant écoutez, ça les touche
oui,
de près.
Mais ils
ne
pensaient pas,
manifester.
Parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas assez expliqué les enjeux. Aujourd'hui, moi, quand je vois, je fais à la rencontre des salariés dans des entreprises, ils me disent mais c'est vrai, on a été bêtes, on n'a pas assez bougé. Et là, ils se rendent compte que c'est trop tard. Mais on continue les batailles, bien entendu, localement. Et chaque petite bataille gagnée, c'est quelque chose d'énorme.
Alors, l'un de vos sujets, c'est la souffrance au travail, Farida Amrani, oui. Puisque vous êtes syndicaliste. Oui. Qu'est-ce que vous proposerez, notamment, pour lutter contre le harcèlement au travail, contre la souffrance au travail?
Bah, écoutez, déjà, vous souvenez, le burn-out n'était pas reconnu en tant que maladie professionnelle. Donc, il faut le rétablir, il faut que ça soit reconnu. Le harcèlement également, c'est-à-dire qu'il doit être inscrit dans le tableau des reconnaissances des maladies professionnelles. C'est important.
Et c'est quelque chose auquel vous êtes confronté, vous, en tant que syndicaliste,
hein ? Énormément et de plus en plus, malheureusement. Énormément et de plus en plus.
Et comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est la façon dont on travaille
la
aujourd'hui ?
La précarisation du travail et de l'emploi. Et justement, toujours faire plus avec moins de personnel. Donc, à un moment donné, ce n'est plus possible.
Alors, votre principal adversaire est le maire d'Evry, Francis Choix, proche de Manuel Valls. Qu'est-ce que vous pensez de son action en tant que maire ? Vous nous avez dit que sur les rythmes scolaires, vous n'étiez pas satisfaite du tout et c'est ce qui a conduit à votre engagement. Mais je dirais de manière globale, qu'est-ce que vous pensez de lui, puisque il est présenté comme votre principal adversaire ?
Mais écoutez, déjà, ce que je regrette, c'est qu'il n'habite pas la ville où il est maire.
C'est possible, ça ?
Bah écoutez, oui, il suffit d'avoir un appartement et de le mettre en location. Donc les problématiques, il ne les connaît pas. Lui, quand il va faire son marché à Paris, tout est ouvert et il n'a aucune problématique de transport. Puisqu'il rentre d'Evry à son domicile en véhicule, en voiture de fonction, payée par les administrés de la ville d'Evry. Donc oui, c'est un problème. Donc ça, déjà, il faudrait déjà qu'il explique ça déjà aux habitants de la ville.
L'un des enjeux pour vous aussi, c'est de préparer les municipales. Si vous remportez l'élection législative partielle, il faut que la France insoumise aussi continue sur cette lancée dans l'Essonne.
Je pense qu'on n'est pas les seuls à penser cela, puisque autour de M. Choix, s'est organisée la baronnerie. Une baronnerie, c'est ça. C'est-à-dire que les 5 maires de droite soutiennent dès le premier tour Francis Choix, qui, je rappelle, est macroniste. Il est sous l'étiquette de Macron.
Il n'y a pas de candidat Les Républicains ?
C'est lui. Non, si, il y en a un candidat républicain. Mais les 5 maires, donc, dont un maire républicain, ont appelé à voter Francis Choix dès le premier tour. Donc, c'est bien qu'ils ont en tête autre chose que la législative. C'est qu'ils ont en tête les municipales. Donc oui, bien entendu, nous aussi, on l'a en tête. Et nous aussi, on fera le nécessaire, justement. On est en train de travailler pour 2020. 2020, c'est demain. On travaille, justement, pour apporter de l'espoir et vraiment du changement dans ces villes.
Farida Amrani, vous avez deux autres adversaires à gauche, en tout cas que j'ai identifiés en faisant des recherches.
Oui, oui.
Eva Sas, soutenue par le PS et Europe Écologie Les Verts, ancienne députée écologiste. Et Michel Nouaille, soutenu par le Parti communiste et Génération, la formation créée par Benoît Hamon. Le chef de file du PS dans l'Essonne regrette qu'il y ait deux candidatures au sein de la gauche responsable. Comment vous réagissez à cette déclaration ?
Écoutez, je respecte les autres partis politiques. Bien entendu, je peux comprendre que, comme vous l'avez dit, c'est un test national, donc que tous les partis veulent être visibles avant les européennes, ce que je peux comprendre. Je connais très bien Michel Nouaille. D'ailleurs, j'étais ce matin avec lui sur le marché. J'ai eu que des bons retours, en tout cas concernant Eva Sas, même si elle ne fait pas partie de la circonscription parce qu'elle est sur Savigny-sur-Orge. Mais je suis sûre, en tout cas. Comme le disait le responsable du PS au niveau départemental, on saura se retrouver en tout cas au second tour.
Très important ça.
Bien sûr.
Au second tour, recevra les soutiens des autres candidats.
Et ben, de toute façon, on est tous d'accord en tout cas à gauche en disant il nous faut un député de gauche le soir du 25 novembre.
Et Francis Choix n'est pas le candidat de la gauche.
Pas du tout. C'est le candidat de la droite. Et de Macron. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus.
Alors, j'aimerais qu'on évoque des sujets nationaux, mais qui concernent aussi l'Essonne. Un an après l'appel de Grigny, que pensez-vous de l'action d'Emmanuel Macron en faveur des quartiers populaires ?
Alors, effectivement, Grigny, qui n'est pas très loin de chez nous, hein, qui d'Evry en tout cas, où il y a eu 150 maires de mémoire qui sont rencontrés.
De toutes les formations
politiques. De toutes les formations politiques, bien entendu, avec un seul but en tout cas, alerter sur les quartiers populaires, ce qui se passe et comment travailler et avoir plus de moyens. Donc, ça me Je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel Macron avait lancé sa campagne présidentielle au campus des métiers à Bobigny. Donc ce lieu n'était pas anodin, je pense qu'il l'a choisi. C'était le symbole, en fait, le symbole qu'il comptait, on pensait que qu'il comptait s'investir en tout cas en priorité sur la question des quartiers populaires, la jeunesse, l'emploi et la formation. Donc vous avez bien vu qu'aujourd'hui, il n'en est rien. 150 maires, en tout cas, ont remis un appel au gouvernement. J'étais présente. Donc, j'ai pu le lire, j'ai pu le voir. Par contre, je me demande vraiment si Emmanuel Macron l'a bien reçu. Et si je suis députée, je lui rappellerai de consulter sa messagerie. Parce qu'il y a urgence.
Il y a urgence pour les quartiers populaires. C'est quoi l'urgence principale, la priorité pour que la situation s'améliore dans ces quartiers?
L'emploi. L'emploi, il faut désenclaver nos quartiers et créer
de l'emploi. Les emplois francs proposés par Emmanuel Macron, qui seront expérimentés, si j'ai bien compris.
On en a déjà eu, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on a ce type, en tout cas, de mission, en fait, de zone franche, etc. Tout ça, ça ne marche pas.
Il a nommé un ministre de la ville, Julien de Normandie, et désormais ministre de la ville et du logement. C'est tout de même un progrès. Là, c'est peut-être le signe qu'il vous a entendu.
Je ne suis pas tellement sûre parce que quand il fait le choix de casser, en tout cas, le rapport Borloo et surtout de classer dans la rubrique faits divers, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, pour lui, aujourd'hui, il est considéré, et je pense qu'au vu des actions qu'il mène, en tout cas, aujourd'hui, il est considéré comme le président des riches.
Vous, si vous aviez le pouvoir aujourd'hui en France, qu'est-ce que vous feriez concrètement pour les banlieues, pour donner de l'emploi? L'emploi ne se décrète pas.
Non, il ne se décrète pas. Par contre, déjà, si on pouvait remettre un peu de services publics dans ces quartiers-là, c'est important. C'est ce qui fait le lien aussi.
À Évry, on manque de services publics?
Oui, on manque de services publics. Donc, dans certains quartiers, les postes ne sont fermés, ne sont pas ouvertes. Et dans certaines villes, même dans d'autres circonscriptions, dans les petites villes autour, on ferme les postes à Lys. Comme Alice, par exemple, la poste pendant les vacances, elle est fermée. Il faut aller dans une autre ville à proximité. Donc aujourd'hui, tout le monde ne peut pas avoir un véhicule, d'accord? Donc il faut penser à cela. Il faut penser à remettre au cœur des quartiers, notamment, du service public.
Christophe Castaner parle de reconquête républicaine des quartiers. Est-ce que cela signifie qu'il y a des quartiers oubliés par la République, pour ne pas dire perdus par la République?
Oubliés, oui, oubliés. Mais justement, si nos élus, et nos hommes et femmes politiques mettaient un peu plus les pieds dans les quartiers, certains y habitent. Hein. Je vois très bien le maire de Grigny, il essaye de faire au mieux avec ce qu'il a. Et lui, il comprend, du coup, c'est pour ça qu'il alerte, comme d'autres. C'est quand je vous dis que la différence avec Francis Choix qui n'habite pas le quartier, qui n'habite pas la ville, elle est là la différence. On peut avoir tous les éléments qu'on veut, même au niveau national, mais quand on ne vit pas au quotidien, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre, donc si on ne comprend pas, on ne peut pas aider, on ne peut pas intervenir. On ne peut pas trouver de bonnes solutions.
Est-ce qu'on ne devrait pas changer aussi les règles? Est-ce qu'il est possible d'être maire sans habiter la ville?
Pour moi, non. On devrait y habiter obligatoirement, même pas avoir un bien, y habiter. Y habiter, c'est-à-dire payer, si on est propriétaire, payer deux impôts.
Un livre vient de sortir sur la scène Saint-Denis, Inch'Allah, écrit par deux journalistes du Monde et des étudiants en journalisme. Il dénonce l'islamisation de ce département. L'Essonne n'est pas loin. Alors, je n'ai pas lu ce livre, mais il y a beaucoup de polémiques autour. Est-ce que ces journalistes ont raison de dénoncer le communautarisme? Ou bien c'est un sujet encore propice aux amalgames, un sujet à manier avec beaucoup de précautions?
Je pense que, en tout cas, les politiques menées jusqu'à aujourd'hui ont créé cela. En tout cas, on conduit vers. Communautarisme, il y en a partout. Mais comment on peut justement avoir du bon communautarisme? Parce que le communautarisme, ça veut tout dire et rien dire. On peut être communautarisme, et vous savez, quand dans les quartiers ou dans le 16e, ils sont communautaires. Hein.
Ce sont des ghettos de riches.
Voilà, donc c'est du communautarisme aussi. Donc tout dépend comment on le prend. Il faut pas tout mélanger. Il faut vraiment pas tout mélanger. Aujourd'hui, on met un focus en tout cas sur ce qui ne va pas. À force de parler de ce qui ne va pas, on ne fait pas attention à ce qui va et ce qui fonctionne.
Et ça, c'est dangereux.
C'est dangereux parce que c'est une minorité. Vraiment, c'est vraiment une minorité. Moi, j'habite dans les quartiers, donc je le vois. Moi, j'habite aux Honnêtes, à Évry. Je connais très bien ce quartier-là. On l'a vu changer, etc. Mais le problème, c'est-à-dire que le souci, c'est qu'on pousse aussi. On pousse les gens à se replier sur eux-mêmes. Parce qu'à force de les montrer du doigt, toujours, mais pour tout, à tous les niveaux, vous imaginez, parce qu'ils viennent d'Évry ou parce qu'ils viennent d'un quartier comme Tarteret sur Corbeil, ils ne trouvent pas de stage pour valider leur année d'études. C'est inadmissible, ça aussi.
Parce qu'ils n'ont pas de carnet d'adresse. Il y a une discrimination à l'adresse.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, moi, je pense que les pouvoirs politiques doivent jouer un rôle, c'est-à-dire que mettre à disposition justement de ces jeunes leur carnet d'adresse. Pour un stage, vous imaginez, un stage non payé. 2 mois de stage pour valider toute une année d'études. Si on n'est pas né dans la bonne famille, on ne peut pas le valider parce qu'on ne trouve pas.
La difficulté aussi d'avoir le bon réseau.
Voilà, parce qu'on n'a pas les réseaux et on n'a pas le carnet d'adresse. Et nous, on se bat justement avec d'autres associations, nous on en a un, on le met à disposition, on essaye de trouver, en tout cas, au mieux qu'on peut, des stages de troisième, des stages pour valider les études.
Vous répondez à ce type de demande,
oui.
Ça fait partie de votre mission, Farida Amrani.
Oui, on y répond parce que c'est le minimum et c'est tout ce qu'on peut faire pour aider l'autre, pour moi c'est important.
Farida Amrani, une question d'actualité. Le gouvernement n'exclut pas une présence policière dans les établissements scolaires après les incidents de ces derniers jours. Vous souhaitez que des policiers puissent venir dans les écoles de votre circonscription, avoir une présence, une permanence?
Tout dépend pour y faire quoi. Parce que j'aimerais savoir pour y faire quoi. Moi, je préférais qu'on rajoute des heures d'éducation civique données par l'éducation nationale. Expliquer ce qu'est la police, le rôle de la police, etc. Par contre, j'aimerais aussi que les forces de l'ordre fassent aussi le travail inverse, c'est-à-dire qu'aillent à la rencontre des jeunes, aillent à la rencontre de la population, mais discutent, vraiment, échangent. Ça, on l'avait, on l'a perdu. Quand on dit gardien de la paix, ce mot-là, il est important et il faut le remettre au cœur.
Farida Amrani, est-ce qu'il faut aussi plus de moyens à l'école aujourd'hui? On a vu quand même qu'il y a une tentative du gouvernement pour les classes de CP et de CE1 dans les zones d'éducation prioritaire. On fait des classes plus petites.
De 10, oui.
C'est une mesure là que vous approuvez.
Effectivement, c'est une bonne mesure quand on peut le faire. Quand l'établissement a la capacité de diviser par deux. Parce que vous imaginez dans une salle... En mettant d'un côté un groupe et de l'autre côté le groupe, le brouhaha, on ne peut pas avancer non plus. Ça aussi. Mais c'est un bon début. C'est un bon début. On va pas. Il faut dire quand les choses vont bien, moi je le dis en règle générale.
Farida Amrani, cette semaine s'est tenu un comité interministériel sur le handicap. En tant que députée, est-ce que c'est un sujet qui fera partie de vos priorités? J'ai vu que François Ruffin s'est beaucoup mobilisé sur cette question.
En effet, et il sera présent le 7 novembre à Évry, justement, sur cette question-là, parce qu'on est confronté, en tout cas, à cela, et notamment les enfants. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. L'école n'est pas adaptée pour. Et justement, quand on disait qu'il fallait s'ouvrir à l'autre, discuter avec l'autre, et ne pas pointer du doigt l'autre, c'est aussi l'handicap, pour l'handicap. Ça vaut aussi pour l'handicap, c'est important.
François Ruffin va donc venir vous apporter son soutien. Oui. Jean-Luc Mélenchon reviendra, Farida Amrani, peut-être qu'il n'y a pas encore de date prévue.
On n'a pas de date, il a un agenda très chargé, mais on y travaille.
Le gouvernement a présenté aussi un plan de lutte contre la pauvreté. De nombreuses personnes n'ont pas d'aide, car les dispositifs sont complexes, mal connus. De votre expérience de terrain, qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre la pauvreté? Il y a notamment des familles monoparentales.
Beaucoup.
On a parlé notamment de femmes qui avaient accouché à l'hôpital et qui se sont retrouvées à la rue avec leur bébé. Oui. Il y a les travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture. voiture. Vous nous parlez de ces retraités qui sont obligés d'aller
au resto du cœur. Tout à fait.
Vous, qu'est-ce que vous préconisez? Quelles sont les mesures d'urgence? On s'approche aussi des grands froids. Il va faire très froid ce week-end.
Il va faire très froid ce week-end. Et en tout cas, moi, sur la circonscription où j'habite, que je connais, il y a énormément de bureaux fermés. Énormément. Où il y a rien. On a des bureaux. C'est pas des appartements, c'est pas des maisons, mais c'est des bureaux. Et on pourrait justement, dans le cadre du grand froid, les utiliser dans un premier temps. Et après, trouver une solution. Moi, je ne peux pas vous apporter la solution tout de suite, là, maintenant, parce que je n'ai pas les clés, je n'ai pas toutes les données, je vais pas vous mentir, je n'ai pas toutes les données, en tout cas, en main sur ce sujet-là. Par contre, on a beaucoup d'idées, et je sais que, déjà, le fait de réquisitionner les bureaux vides pour mettre les gens à l'abri, avec les enfants, etc. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite maintenant et qui ne coûte rien.
Merci Farida Amrani.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes candidate La France Insoumise lors de l'élection législative partielle du 18 et 25 novembre dans la première circonscription de l'Essonne. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.